Bien, mesdames et messieurs, eh bien, je suis. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carole Canette, je suis la mère de Fabien des Aubrais, et j'ai le bonheur, d'accueillir Philomania, de vous accueillir dans cette salle. Je crois que pour la plupart, vous la connaissez soit parce que je vois des florissoises, parmi nous, soit parce que vous êtes déjà venus, puisque c'est la troisième année. Que nous avons cet honneur à Fleury d'accueillir un capitulo de Philomania. En France, vous avez sollicité avec grand plaisir, notamment avec Bernard Martin, qui a été en culture, mais avec toute l'équipe municipale, de se dire, et puis l'équipe de la bibliothèque, de se dire que c'était une formidable idée et que nous avions tellement besoin, non seulement de réfléchir, mais de réfléchir pas tout seul. De réfléchir ensemble, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à construire sa pensée, d'intégrer les arguments des uns et des autres pour continuer à construire sa pensée. Alors, j'ai un petit regret ce soir, une petite tristesse, parce que je vais être obligée de vous quitter, je suis attendue à la passerelle, je vais pouvoir rester une demi-heure, mais pas plus. Mais alors, j'ai eu le bonheur, si je peux dire, de quitter très vite une réunion budgétaire à la région. Donc, je me suis dit que quitter les chiffres pour venir entendre des mots, c'était pas mal, même si je crois que derrière les chiffres comme derrière les mots, c'est finalement à la fois des idées qui se cachent et des visions du monde, mais que c'était peut-être fait de manière un peu plus poétique ici qu'avec les tableurs et les Excel et quelques larmes de douleur. Voilà. Mais vous dire que. Je souhaite vous dire que vraiment, ce n'est pas des mots vains de dire que c'est un honneur de vous accueillir, un plaisir, parce qu'on a besoin à Fleury comme ailleurs de réfléchir ensemble, de penser, et avec cette philosophie, cette approche qui est la vôtre, de se dire qu'on fait ensemble jusqu'au bout, y compris dans le choix de la thématique, voilà, et que c'est tellement précieux d'avoir des espaces où non seulement on le fait, mais où on apprend à le faire. De confronter les idées calmement, tranquillement, sans s'invectiver, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas viscéralement soit convaincu, soit porté par ce qu'on a apporté, par sa propre vision, mais que vivre ensemble, finalement, c'est ça. Et je crois que ça a toujours été nécessaire et on est dans un temps du monde et du pays particulier qui fait qu'on a vraiment besoin de le faire. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais un grand merci pour ce que vous faites et un grand merci d'être à Fleury les Aubrais. Voilà. Il y a Frida Kahlo qui disait « Là où tu ne peux pas aimer, ne t'attarde pas. » On pourrait dire « Ne reviens pas. » Mais je pense que si vous venez ici, c'est que vous aimez Fleury les Aubrais. Et donc, de ça, un grand merci. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.
Alors, Philomania, c'est toute une équipe.
Oui,
voilà, avec des bénévoles qui y travaillent et qui sont, comme moi, très heureux de se retrouver à Fleury ce soir. Et j'espère bien que ce ne sera pas la dernière fois. Et on vous donnera un petit lot de consolation, promis juré, dès que le podcast de la soirée est disponible, on vous l'envoie.
Merci beaucoup Marie-France. Donc je me présente, je suis Laurence Lacroix, et donc j'ai l'honneur d'animer les Cafés Philo avec mon collègue et ami Nicolas Déré, ici présent. Donc, je rappelle assez brièvement la manière par laquelle nous fonctionnons. Les Cafés Philo, c'est vous qui ont déterminé le thème. Il y a des chances qu'il y ait des interférences aussi. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est bon ? Ça a l'air d'être bon, donc nous allons continuer. Donc c'est vous qui ont déterminé le thème, donc on attend vos propositions de sujets, de questions, de thématiques pour ce soir. Toutes vos propositions seront prises en note par notre secrétaire préféré. Voilà. Vous pouvez donc proposer autant de sujets que vous le désirez. Tous les sujets seront soumis au vote. D'accord. Vous pouvez voter autant de fois que vous le désirez selon le nombre de sujets que vous désirez. Si jamais nous avons un sujet ex aequo, alors là nous recommencerons un vote, mais vous le pourrez dans ce cas-là de toucher chaque fois pour départager les sujets. Les comptes seront effectués par deux personnes, de telle sorte que trois ce soir, trois rangées, voilà, et le total donc sera effectué ici, et encore une fois, le sujet qui aura remporté le plus grand nombre de votes sera le sujet débattu ce soir. Donc nous attendons maintenant vos propositions. N'hésitez pas, on fait passer le micro.
Alors je m'interroge en ce monde où on perd confiance un petit peu, où on s'angoisse pour l'avenir. Donc ma question serait, alors peut-être à reformuler, mais je la vois ainsi, dans quelle mesure avons-nous besoin de croire ? Mais pas croire simplement, croire au niveau spirituel, religieux.
Croire au sens large.
Oui, tout à fait.
Donc dans quelle mesure avons-nous besoin de croire ?
Oui.
Je vais rejoindre un peu votre intervention. Dans cette période de grande incertitude, le thème qui m'intéresserait, ce serait le doute.
D'accord. Le doute.
Bonjour. J'ai deux sujets à proposer. La foule, les foules, ont-elles toujours raison ?
D'accord.
Et puis, peut-on échapper à la binarité ?
À la binarité. D'accord. Donc, là, les foules ont-elles toujours raison ?
Les foules. Je mets les deux, là et les.
Là,
foules.
Les. Là. Il faudra peut-être travailler justement ça. Là, les foules ont-elles toujours raison ? Et peut-on échapper à la binarité ? Peut-on échapper à la binarité ?
Alors, ma question est la suivante. La fin justifie-t-elle systématiquement les moyens ?
La fin justifie-t-elle systématiquement les moyens ? Y a-t-il d'autres propositions ?
Et on est bien d'accord que c'est la fin FIN.
Oui.
D'accord.
Donc moi j'ai une autre proposition de thème en fait entre réalité et vérité. La réalité en fait ça reste une référence solide sur laquelle on peut s'appuyer à mon avis, et la vérité en fait qui est défendue, enfin présentée comme premier réflexe par beaucoup de personnes, pour moi la vérité ça sous-entend la possibilité du mensonge, ça sous-entend la possibilité de la révélation, et c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, mais beaucoup plus dangereux, en fait, que de choisir de prendre la réalité comme référence.
Mmh. Alors, comment on pourrait formuler ça comme sujet ? Rapport réalité-vérité ?
Comment se positionner, en fait, entre la vérité et la réalité ?
D'accord, on peut le formuler.
C'est final.
Oui. Comment se positionner entre réalité et vérité ? C'est bien. Donc ça nous fait un ensemble de six sujets. D'accord.
Ouais.
Donc, est-ce que tu peux nous les rappeler ?
Oui. Alors, les sujets sont, le premier sujet, dans quelle mesure avons-nous besoin de croire ? 2, le doute. 3, là, les foules ont-elles toujours raison ? 4, peut-on échapper à la binarité ? 5, la fin justifie-t-elle systématiquement les moyens? Et 6, comment se positionner entre réalité et vérité?
Donc, pour le premier.
Donc, le premier, dans quelle mesure avons-nous besoin de croire?
Voilà. 2 pour moi.
2.
8.
8 et 2, 10 et 2, 12. 12. 12.
C'est bon? Second sujet.
Le doute.
Questionner le doute. Donc, 2.
Et moi?
3. 3.
2.
2, 6. 2. Ah non? Oui, 2 plus. Non, j'ai pas compris. Ça fait combien, 2?
2, 3.
Et 2. Ça fait 5. 5, pardon. Troisième sujet. Là, les foules ont-elles toujours raison?
3,
2,
4,
4 et 2, 6 et 3, 9, 9. Peut-on échapper à la binarité?
Peut-on échapper à la binarité? Non.
3,
3,
6, 6. La fin justifie-t-elle systématiquement les moyens?
3,
6,
7,
8, maintenant.
Non. Plus toi.
Plus toi, donc 8. Allez, 8. Et comment se positionner entre réalité et vérité?
En
tout? Ok.
Non, 7, 7, 8.
Attends.
Et il y en a 7. 7, 8, 7. 8.
Non, 15.
7, 8, 8.
8. 8 et 8, 16 et 7, 20 ans. 8 et 8, 16 et 7, 23. On est bien d'accord, 23. Donc 23. Donc le sujet qui l'emporte, 23, comment se positionner entre réalité et vérité?
Et ben
voilà.
Donc, vous nous l'avez déjà un peu expliqué, mais est-ce que vous voulez reprendre un peu les raisons pour lesquelles un tel sujet vous intéressait, ou pour lesquelles vous l'avez proposé ce soir?
C'est une question, comment dire, c'est une question que je trouve posée à de multiples façons dans l'environnement médiatique et social actuel. D'une part, entre les vérités et les fausses vérités, les fake news, la manipulation de l'information à laquelle nous sommes soumis quasiment en permanence. Enfin, je parle pour moi parce que je suis très, comment dire, je suis très au courant où je suis les flux d'informations venant des États-Unis de façon, enfin, en écoutant la BBC, enfin, en regardant la BBC, en regardant des sites américains. Donc là, je constate que c'est absolument effrayant, en fait, ce qui se passe. Et puis, aujourd'hui, par exemple, nous avons un problème de prise de conscience d'un phénomène qui s'appelle le réchauffement climatique, qui est un phénomène d'une violence absolument extraordinaire. Pour exemple, donc, la semaine dernière, je crois, au Vietnam, il y a eu donc un ouragan avec des chutes de pluie de 1,70 m de pluie en 24 heures. Jusque-là, on avait imaginé ça, on avait entendu parler de ça lors de la mousson dans certaines régions en Inde qui étaient vraiment parmi les plus exposées, mais des niveaux de précipitation, enfin, des quantités de précipitation de cet ordre-là, c'était de l'inconnu. Alors, il est vrai que, comment dire, que l'information circule beaucoup plus facilement et que aujourd'hui on est beaucoup plus rapidement informé de ce qui se passe ici ou là, enfin, ou ailleurs. Des catastrophes climatiques, il y en a eu d'autres dans le passé. Hein. Personne ne sait a priori que Galveston a été rasé par un ouragan au début du XXe siècle. et qu'on ne connaît pas le nombre de victimes. Tout ce qu'on sait, c'est que la ville a été réduite à un tas de planches et qu'il n'y avait plus rien. Donc, mais aujourd'hui, on est informé du changement climatique. Bon, il y a eu donc cet ouragan en Jamaïque sur la partie atlantique. Il y a eu ces ouragans aux Philippines et puis au Vietnam. Il y en a un autre qui arrive, qui est passé hier sur les Philippines et qui dirige vers le Vietnam aussi. Donc voilà. Donc, des choses comme le changement climatique, et puis en France aussi, il y a eu des incendies dans le sud de la France, il y a eu des catastrophes. Bon, le changement climatique, c'est quelque chose de réel qui devrait nous impacter, nous concerner, être pris en compte. Et puis à côté de ça, en fait, on se contente d'un discours qui parle de vérité, mais qui évacue en fait beaucoup de choses gênantes, mais réelles.
Donc si je comprends bien, on parlerait ou on exigerait que la parole dise vrai, et en même temps elle se détourne complètement du réel. Ça serait ça l'idée ? C'est qu'il y aurait une exigence de dire vrai, et en même temps le réel on s'en détourne. Donc il y aurait une...
On n'a pas l'énergie, la force d'affronter le réel.
Et on... Voilà, d'accord.
Il y a cet aspect-là des choses, et puis l'autre aspect, c'est aussi le réel peut nous servir de référence.
Que le réel peut nous servir de référence d'une manière générale, et qu'il est souvent nécessaire de remettre en cause ou d'examiner ce qui nous est présenté comme vérité. Que ce soit la vérité toute bête ou que ce soit la vérité révélée aussi d'ailleurs au travers des religions, mais ces approches là à mon sens sont pernicieuses, enfin sont néfastes. Mais ça c'est mon jugement.
Moi, j'ai une petite remarque, je crois que je n'ai pas trop bien saisi, c'est pour la définition des termes. Donc, pour moi, ça se confond, parce que la définition de la réalité, c'est de voir une chose telle qu'elle est. Donc, c'est de voir le réel. Donc, réalité et vérité, pour moi, c'est la même chose. Je pense que le monsieur l'a voulu dire, on nous présente une chose qui est vérité au réel, mais elle n'est pas. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu dire ?
Alors, peut-être pour poser les choses, il est vrai qu'une définition, j'ai envie de dire classique, de la vérité, c'est l'adéquation entre ce que je peux dire, ce que je peux penser ou me représenter mentalement, et le réel. Ai-je ma phrase disant, par exemple, que le marque-page de Philomania, je crois que celui-ci, est jaune, voilà, ma proposition est vraie, tout simplement parce que le marque-page de Philomania est effectivement jaune dans le réel. Donc ce que je dis correspond bien à ce qui est. J'aurais une adéquation, okay, d'accord, il est jaune. Il est pistache. Voilà. Est-ce que effectivement ce que l'on dit correspond à ce qui est ? Voilà, là est véritablement un des enjeux du débat. Parce que certains le voient pistache, d'autres peuvent le voir jaune. Ce qui serait intéressant, parce que du coup, interviendrait dans cette notion de vérité, non pas simplement l'adéquation, mais aussi le problème de l'interprétation du réel. Et là, effectivement, les choses peuvent dévier.
Hier soir, merci. Bonsoir. Peut-être introduire dans la réalité l'illusion qui cache la vérité. Merci.
Je pense que la vérité, on va dire absolue, c'est un petit peu compliqué de l'avoir parce que c'est par rapport au point de vue qu'on a sur quelque chose. Par exemple, si on est daltonien et qu'on ne le sait pas, on arrive, on voit un arbre avec des feuilles violettes, et quelque part des feuilles vertes. Pour nous, on va penser que la vérité, c'est que les feuilles de l'arbre sont violettes, alors qu'elles sont vertes. Donc c'est difficile d'avoir une vérité sur quelque chose qu'on voit ou qu'on interprète, parce que la réalité, elle est différente pour chacun par rapport au point de vue.
Oui, je voulais rebondir là-dessus, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour moi, une réalité, mais des réalités. Puisqu'on ne perçoit pas les choses non seulement par les sens de la même façon, déjà les cinq sens, mais en plus, on n'a pas le même point de vue. Imaginons qu'on vous demande de raconter ce qui s'est passé au moment où nous sommes arrivés dans la salle. Donc, ce que vous disiez, on ne va pas le raconter de la même façon. Donc, il y a non seulement les perceptions... qui peuvent être altérées, mais aussi la manière du point de vue du regard sur les choses. On ne va pas peut-être être... Notre attention ne va pas être attirée par la même chose, donc on ne racontera pas les événements de la même façon.
Moi, ça me poserait la question, du coup, de dire, est-ce que la vérité vient de l'expérience ou de la connaissance ?
Ça rejoint un peu ce que j'avais en tête, parce que, à écouter, la notion, en fait, qui a été introduite de l'interprétation et de la perception, elle m'a fait réagir dans la mesure où elle me fait me poser la question, est-ce que nous, par notre simple existence ou notre simple perception, en fait, c'est pas nous qui faisons la réalité. Si on imagine une petite expérience de pensée, imaginons qu'il n'y a plus aucun être vivant dans tout l'univers. L'humanité n'est plus là, il n'y a pas de vie extraterrestre. Il reste donc des planètes, des étoiles, sans vie. Il n'y a personne pour en faire l'expérience. Elles sont là, elles existent, donc dans l'absolu, c'est une réalité, mais cette réalité, il n'y a plus personne pour en faire l'expérience, ou il n'y a plus d'être vivant pour en faire l'expérience. Et donc en fait, finalement, s'il n'y a plus personne pour faire l'expérience de la réalité, est-ce que la réalité, elle est encore là ?
Grande question, est-ce que c'est nous qui faisons être le réel ?
J'ai un petit peu perdu le fil, du coup. Je veux dire que, d'une certaine manière, j'abonde dans ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir qu'on a tous une perception, une vision différente de la réalité, de ce qui vient de se produire, et en même temps, je me défie terriblement de ce qui peut être des réalités relatives. Parce que je crois qu'on tombe à pieds joints dans le piège des fake news. Et je pense qu'on peut quand même majoritairement être d'accord, comme le disait le premier intervenant, sur des réalités telles que des catastrophes, un nombre de morts, etc. Mais quand on approche de la vérité, c'est beaucoup plus complexe. Et moi, j'ai l'impression, vous avez parlé d'interprétation, que la vérité s'apparente souvent à une croyance et à une idéologie. Je suis sûre d'avoir raison, je possède la vérité. Je pense qu'il y a vraiment un gouffre abyssal entre la réalité et la vérité, et je me défie insensément des réalités relatives. Je crois qu'il faut se méfier de ça, que la réalité, on a des perceptions différentes. Il y a toujours des débats sur la réalité historique. Et on a bien vu que d'après les époques et d'après les politiques, il y a des interprétations de la réalité. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale n'est pas du tout enseignée en Russie comme elle est enseignée chez nous. On est revenu sur des réalités à Vichy, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment, sous peine de se fourvoyer et de tomber dans quelque chose de faux, essayer d'établir une grosse différence entre réalité et vérité. Je crois que la vérité est entachée de quelque chose de fortement dangereux.
Alors peut-être ce qui serait intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a peut-être pas qu'une réalité, et il va falloir qu'on aille peut-être les distinguer, ni non plus qu'une seule vérité. Et que selon les domaines dans lesquels on pose ces termes, ces notions ne vont peut-être pas avoir effectivement le même sens et vont avoir des portées différentes.
Ouais. Ce que vous nous dites me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur espagnol qui s'appelle Javier Cercas. Il a écrit L'imposteur, et justement sur Enrique Marco, qui pendant des décennies s'est fait passer pour un survivant des camps de concentration, alors qu'il était allé justement par un contrat entre l'Allemagne et l'Espagne pour travailler là-bas. Donc, et pendant des années, jusqu'au moment où, effectivement, il représentait un petit peu le gouvernement espagnol et il devait aller, justement, pour une cérémonie sur un des camps. Et il avait même parlé devant une assemblée de députés qui faisait pleurer les députés. Des gens qui étaient revenus des camps, justement, l'écoutaient. Enfin, il avait un rôle important. C'était jusqu'au sommet de l'État. Et puis un jour, la vérité a éclaté grâce à un historien qui a fait des recherches et qui s'est aperçu qu'en fin de compte, il était allé travailler, mais c'était un contrat. Enfin, il n'est pas du tout rescapé. Tout ce qu'il racontait, en fait, parlant de lui, il était un imposteur. Donc, il y a le rapport vérité-mensonge. Donc, en fait, lui, il était dans sa réalité. Mais la question, enfin, un petit peu paradoxale qui se pose, c'est que ce qu'il racontait quand même, ce qui se passait dans les camps, lui, il ne l'avait pas vécu, mais tout ça, il l'avait lu, il l'avait entendu. Donc en fait, ce qu'il disait sur les camps était vrai, mais lui, il était dans sa réalité. Et ça me fait penser à cela, le rapport réalité-vérité.
La logique de l'imposteur est intéressante. Voilà, il y a effectivement dans la littérature toute une panoplie d'imposteurs qui réussissent très très bien et souvent très longtemps. Mais là encore, ils arrivent à nous faire croire à leur réalité, ou en tout cas la réalité à laquelle ils voudraient qu'on adhère. Mais il y a toujours quelque chose malgré tout, il y a toujours un fait qui vient tout d'un coup effectivement détruire l'image et qui vient révéler l'imposture. D'où est-ce que la vérité, malgré tout, ne revient pas à cette réalité, ce fait contre lequel on bute et qui fait que la vérité est ce qu'elle est et qu'on ne pourrait pas en faire ce qu'on voudrait en faire.
Ouais. C'est important que je dise la vérité.
Mais en même temps, elle a triomphé.
Non, mais là je proteste au sens où, en fait, dans le langage, on dit qu'une personne a sa réalité, elle défend ça, elle défend sa conception du réel, en fait, elle défend sa vérité. Et pour moi, le réel, la réalité, c'est quelque chose que l'on peut expérimenter, qui peut être expérimenté en général, même collectivement. Donc, quand une assemblée dit, OK, ce morceau de papier est jaune ou il est vert, etc. Tout le monde est d'accord et c'est un fait réel. D'accord. Par contre, la réalité que l'on porte en soi, ce sont les vérités que l'on transporte. Ce ne sont pas nécessairement des réalités. On peut affirmer que, mais c'est un mensonge à mon avis.
Mais c'est peut-être là où ça serait bien de travailler maintenant les termes qu'on emploie, les concepts qu'on emploie. C'est-à-dire, effectivement, lorsque je dis quelque chose que je pense être vrai, et où on demande à chacun de reconnaître, ou à tout le monde de reconnaître que chacun puisse avoir sa vérité, est-ce qu'en fait, on ne se leurre pas sur les termes qu'on emploie ? Effectivement, on a parlé d'un point de vue perspectiviste. On a dit la façon dont chacun perçoit le réel va répondre à la manière dont il, effectivement, peut l'interpréter ou peut le ressentir. un même événement, tout le monde n'en donnera pas la même histoire. Mais est-ce qu'il peut y avoir justement vérité là ? Est-ce que dans le vécu, dans le ressenti, dans la façon dont on perçoit les choses, est-ce qu'il y a là quelque chose qui relève du vrai ? Rien n'est moins sûr. Effectivement, quand je vois mon marque-page, je vais rester avec mon marque-page, qu'on me dit être pistache, que je peux définir jaune, déjà on a un problème de langage, parce que bah, des fois les mots nous manquent pour signifier les choses, mais ensuite les sens qui sont les nôtres, ne serait-ce qu'avec la lumière qui éclaire ce bout de papier, ne va permettre à cette couleur de ne pas être perçue nécessairement de la même façon de ce point de la pièce, et peut être perçue différemment de ce point-là de la pièce. Donc est-ce que les sens véritablement nous donnent accès, peut-être pas au réel, mais à la vérité du réel? Si on s'en réfère à la science, que nous dit la science ? La science nous dit, mais de ce que vous offrent les sciences, détournez-vous. Et c'est là où on en revient effectivement à la distinction expérience-connaissance. Je peux avoir l'expérience, effectivement, je vois le marque-page, je vois la couleur que peut avoir le marque-page, mais si je veux connaître la vérité de la couleur du marque-page, vers quoi je vais me retourner ? Mais je vais me retourner vers la chimie. C'est la chimie qui va me donner la composition chimique, effectivement, de tel type de couleur, et qui va faire que quand je vais chez mon coloriste ou chez mon peintre, je vais véritablement avoir la couleur que je veux, et cette couleur, elle sera reproductible parce qu'elle dépend d'une équation mathématique, en fait, d'une équation chimique. La raison va me permettre de connaître le réel, pas l'expérience nécessairement que j'en ai, mais la rationalisation que je peux faire du réel. Ce qui fait que la vérité, effectivement, de mon vécu, c'est peut-être effectivement ce que je vis, c'est ce que je peux nommer ma vérité, mais ma vérité, est-ce qu'elle a tellement à voir avec la vérité ? C'est ça. Si vérité il y a, encore faut-il qu'elle soit partageable par un collectif, qu'elle soit universalisable. Soit la vérité est la même pour tous, soit elle n'est qu'opinion. Et on parlait de croyance. Elle n'est que croyance. Une croyance, quelle est la définition de la croyance ? C'est une affirmation. Je peux en être certain ou certaine de ma croyance, mais je sais qu'elle est non fondée. Non fondée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire non fondée en raison. En raison. Du coup, est-ce qu'on ne parle pas très souvent de vérité ? Là où, en fait, ce terme n'aurait pas à s'appliquer.
Je me demande justement si le travail de la science, ça n'est pas justement d'établir la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que, comme tu le rappelais, comme c'était rappelé dans les interventions précédentes, nous avons un rapport sensible à la réalité, on expérimente la réalité. Et effectivement, là, on est du côté de la subjectivité, de la relativité. Relativité des sensations, des perceptions, des ancrages culturels, des mots qu'on emploie. Et là, on pourrait très bien dire à chacun sa vérité. Est-ce qu'il fait chaud dans cette salle ? Il y aura autant de réponses qu'il y aura d'impressions personnelles. Par contre, la science, c'est précisément ce qui permet de dépasser le cadre sensible, donc la pure sensation, pour aller du côté de la raison et pour aller du côté de la mesure. La science a introduit de l'objectivité parce qu'elle a introduit du chiffre. Il ne fait ni chaud ni froid dans cette salle, on mettrait un thermomètre, on aurait la température en degrés Celsius. Effectivement, et comme tu disais tout à l'heure pour ta remarque introductive, la question du changement climatique, ou même du dérèglement climatique, c'est pas une affaire d'opinion ou de perception, parce qu'à ce moment-là, on pourrait très bien aller du côté d'un Donald Trump qui dirait ben non, il n'y a pas de réchauffement climatique, regardez, moi j'ai froid. D'accord ? Mais en fait, si, il y a bel et bien un dérèglement climatique, parce qu'il y a des experts, parce qu'il y a des scientifiques, parce qu'il y a des données objectives qui sont celles de la science, qui l'établissent. C'est le travail du GIEC, c'est le travail de toutes les observations, et ça, précisément, ça n'est pas révocable en doute. On peut ensuite discuter de la façon dont on va s'adapter à cette réalité. Ça, c'est du côté de la politique et de la société. Mais ce qui n'est pas révocable en doute, c'est qu'un fait, c'est un fait. Et précisément lorsqu'on arrive à remettre en cause le travail de la science, c'est là où on bascule du côté de l'idéologie et on bascule même du côté de la dictature et du fascisme. En 1984 de Orwell, c'est bien ça, c'est « je vais vous imposer cette vérité nouvelle selon laquelle 2 et 2 font 5 ». Maintenant, en fait, 2 et 2, ça ne fait pas 5, ça fait 4. Point. Et ça, c'est pas discutable.
Et ce qui est intéressant...
Précisément.
Non, c'est vrai que la science peut être remise en cause, mais... moi, il y a toujours un passage qui me passionne chez Descartes, le père du rationalisme. Et ça rejoint un peu tous les sujets qui ont été proposés ce soir, puisque Descartes utilise le doute, justement, pour tenter de chercher la vérité. Et avec une volonté, au départ, de mettre à distance la réalité, parce que la réalité, justement, elle nous est offerte la plupart du temps par l'intermédiaire de nos sens. La table, elle est dure parce que je la touche, et donc j'en suis intimement convaincue. Je dis, il est vrai que la table soit dure. Pour remettre ça en cause, il faut accepter que nos sens ne nous donnent pas accès à la vérité du réel. Et il dit, mais en fait, la vérité, on la connaît. On sait où elle est, la vérité. Et il ne faut pas oublier que Descartes, c'est un mathématicien. La vérité, elle nous est donnée par quoi ? Elle nous est donnée par les mathématiques. 2 plus 2, c'est égal à 4. Donc, on ne peut pas douter de la science. Et pourtant, la science, elle n'a pas toujours raison, et on la remet en cause. D'où la question de Descartes. Peut-on douter des mathématiques ? Et la réponse, elle est extraordinaire, parce que je crois qu'elle répond en fait à notre difficulté. Descartes nous dit, attention, on ne peut pas douter des mathématiques comme science. Par contre, de quoi peut-on douter ? On peut douter des humains faisant usage de leur raison pour faire des mathématiques. Il y a un monde des mathématiques. Les mathématiques, ils existent. Enfin, voilà. Voilà, 2 plus 2, ça fait 4, parce qu'il y a une vérité du nombre. Ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas la vérité que pose ma raison, c'est la vérité du nombre qui existerait, alors on en a parlé, qui existerait, qu'il y ait une raison, ou qu'il y ait des humains, ou qu'il n'y en ait pas. Qu'il n'y ait pas d'humain, 2 plus 2, c'est égal à 4. Parce que le nombre est indépendamment de nous. Nous, on le découvre parce que nous le pensons, mais la raison humaine, dit Descartes, elle est quoi ? Mais elle est faillible. Alors, elle est faillible, ce pourquoi, effectivement, on peut se tromper, et les scientifiques se trompent comme n'importe quel autre être humain, d'où l'importance de la communauté scientifique. C'est très important qu'on soit toujours vigilant à discuter, en fait, à pouvoir se contrôler les uns les autres dans l'exercice de notre rationalité. Et c'est vrai aussi, et j'aimerais y revenir, sur ce que vous avez dit, mademoiselle. C'est-à-dire, en tant qu'humains, nous sommes porteurs d'illusions. Voilà. La réalité, on est capable de l'avoir, d'en faire une illusion. Mais parce que l'humain, c'est pas qu'une raison, c'est un être de désir aussi. Et souvent, le problème du réel, je pense au changement climatique, mais moi, j'ai un désir profond de ne pas le voir, moi. Voilà. Où le changement climatique ? Ça va ? Est-ce qu'il est si terrible que ça ? À la limite, je peux planter des lauriers roses dans mon jardin. Moi, je suis absolument ravie. Voilà. Donc, et cette puissance du désir, elle est chez l'humain absolument phénoménale. Ce qui fait que je veux voir, enfin, je vois ce que je veux voir, j'entends ce que je veux entendre, et je dis aussi ce que je veux dire du réel, c'est-à-dire ce que je veux que le réel soit, selon le désir qui est le mien. Et les scientifiques, ils sont aussi parfois traversés par ce même désir que n'importe lequel d'entre nous. D'où la difficulté peut-être de purifier cette vérité. Comment être sûr qu'on la possède ?
En fait, si on peut même d'ailleurs rebondir tout de suite sur cette idée de désir, parce qu'il y a un désir qui est aussi très puissant, je pense, en tout cas chez... dans un esprit collectif, c'est justement ce désir de connaître la vérité. Parce que c'est un thème qui, en fait, on se rend compte qu'il est assez récurrent dans la littérature, surtout dans la science-fiction, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui n'est pas une simulation, qu'est-ce qui n'est pas une illusion. C'est des thèmes qui reviennent très souvent et qui, à mon sens, témoignent justement de ce désir profond. En fait, peut-être que c'est quelque part un désir de se rassurer, de se dire qu'est-ce qui est vrai, parce que si je sais ce qui est vrai, eh bien moi je sais comment je me place par rapport à ça. Et c'est pour ça que la tentation pour certains d'invoquer la science est peut-être très forte, alors qu'à mon sens, là je parle un peu en tant que scientifique, la science n'a pas la prétention de donner la vérité. La science, elle modélise, elle cherche à expliquer le monde qui nous entoure, mais elle n'a pas la prétention de dire « voilà ce qui est vrai ». La science nous dit « moi je pense que ça marche comme ça ». Mais en science, on a des notions d'incertitude, on a des notions, on a des modèles dont on connaît les failles. Et donc, la question qui se pose peut-être, c'est par rapport à ce désir de connaître la vérité, c'est est-ce qu'on a les moyens de satisfaire ce désir ? Faut-il chercher à satisfaire ce désir ? Et quand on reparle de science ou de mathématiques qui sont vraies dans l'absolu, en fait, la vérité, on peut se dire, elle est tout autour de nous. Et nous, ce que nous faisons par les mathématiques ou par les sciences en général, c'est essayer de la traduire. Mais comme nous sommes humains, nous avons nos biais, nous avons nos perceptions qui sont limitées, parce que si on reprend l'exemple de Maurepage, alors moi je le vois vert, hein, j'aurais dit qu'il était vert, Maurepage. Mais même si on accède à cette composante physico-chimique, qu'est-ce qui fait la couleur, ça reste contraint par notre système de vision. Notre propre constitution physiologique. Donc on a des limites physiologiques, on a des limites psychologiques, et donc dans cette situation, comment est-ce que nous on peut se placer par rapport à la vérité, par rapport à notre désir de connaître la vérité? Et j'avoue que c'est une question que je trouve assez vertigineuse, en fait, parce qu'on a vu en fait les termes de vérité et de réalité peuvent être instrumentalisés pour être complètement distordus et donner corps à des atrocités.
Alors, si je vous ai bien compris, sans doute des connaissances, pas de vérité. Et je suis dans une réflexion par rapport à un film, je ne sais pas si vous le connaissez, L'enfant pyjama rayé. Parce que lui, son désir, en fait, c'était de vivre sa réalité d'enfant. Son père est devenu commandant d'un camp d'extermination. Il vivait avec sa famille, donc, tout près du camp. Et l'enfant a perçu au loin le camp. Et son père lui a fait croire que c'était des gens qui travaillaient, enfin, fermiers, agriculteurs, voilà. Et puis, il a voulu s'échapper parce qu'il y avait le désir de l'enfant de jouer et de découvrir, de partir en quête, en aventure. Et il s'est approché, il a traversé un petit peu le bois, il a vu les barbelés, puis il a fait la connaissance avec un enfant qui avait un pyjama, justement, et alors, il se posait des questions, pourquoi vous êtes en pyjama? Et donc petit à petit, il s'est mis à jouer avec l'enfant. Donc dans sa réalité, lui, il était réalité de l'enfant, qui ne voyait pas, parce qu'il n'avait pas les connaissances, ce qu'on disait, il ne doutait pas. Parce que pour lui, c'était un enfant qui était là pour travailler et en fait, il voulait jouer avec lui. Donc il était dans... Comme on ne lui avait pas apporté la connaissance et qu'il vivait dans le mensonge créé par son père, pour lui, c'était un jeu d'être avec son enfant, cet enfant-là, de son âge, pour jouer jusque... Enfin, je ne sais pas si je dois vous raconter la fin. Non, je ne la raconterai pas. Mais je vous conseille de le voir, justement, puisque jusqu'au bout, il était dans ce jeu. Et c'est. Voilà. Donc je ne peux pas trop. Comme je ne peux pas utiliser la fin, je ne peux pas trop vous expliquer, mais lui, il a vécu. Il n'avait pas vraiment de doute. Il lui posait des questions au fur et à mesure, mais il était dans son esprit d'enfant. Et puis évidemment, puisque la vérité implique le mensonge, dans le mensonge inculqué par son père et inculqué en partie par sa mère, qui ne savait pas au départ que c'était un camp d'extermination.
Alors, concernant la recherche de la vérité, il est très important de garder une chose à l'esprit, c'est que la vérité pure et absolue n'existe pas. C'est une chimère, c'est un mythe, un objectif absolument inatteignable. Au mieux, nous pouvons nous rapprocher de la vérité, nous pouvons tenter de la toucher du bout du doigt, mais nous ne parviendrons jamais totalement à saisir la vérité dans son ensemble, car la réalité elle-même, dans son ensemble, est trop complexe, trop riche et trop chaotique pour être saisie dans son intégralité. Merci. Et finalement, la recherche de la vérité, ce n'est rien de moins qu'une énigme dont on sait éperdument qu'on ne connaîtra jamais la réponse, mais qu'on cherchera toujours à résoudre, malgré tout, et ce, en dépit du non-sens total que représente cette quête de vérité. Car, par nature, elle est inatteignable. Elle est intangible, immatérielle. La réalité n'est rien. La réalité est une idée, un concept, quelque chose d'immatériel qui plane dans l'air, qui passe de bouche à oreille, d'esprit en esprit. Quelque chose de très volatile, finalement. Quelque chose d'insaisissable, qui ne peut pas, qui n'a ni corps, ni présence, ni odeur, ni rien du tout. C'est donc quelque chose de très complexe à cultiver la vérité, car effectivement la vérité peut être instrumentalisée, la vérité peut être détournée, et la vérité peut servir d'arme pour commettre et justifier les pires atrocités. C'est donc à nous de rester méfiants et de rester distants face à la vérité, de rester réfléchis, de rester ouverts d'esprit, c'est ça. Questionner la réalité qui nous entoure et questionner la vérité qui en découle. C'est uniquement à travers le questionnement et la remise en question que nous parviendrons peut-être à éventuellement trouver un début de réponse. Merci.
C'est un constat d'évidence, une la palissade, mais j'imagine que tout le monde ici est bien conscient que tout ce qui s'échange là heurte de plein fouet les croyances des gens qui sont religieux et qui croient à une vérité avec un grand V révélée, quelle que soit la religion à laquelle on appartient. Donc moi, bien sûr, en athée fervente, je suis d'accord avec à peu près tout ce qui s'exprime ici, sauf cette vénération pour la science qui me paraît, moi, extrêmement suspecte. Voilà. Mais essayer de faire entendre un croyant qu'il a sa propre vérité et qu'elle n'est pas vérité universelle. Juste essayer.
Moi, je suis d'accord avec vous que la vérité absolue, surtout, on ne l'aura jamais, mais je pense qu'il y a certaines petites vérités qu'on a déjà. Par exemple, si je vous montre une tasse, que je vous dis que c'est une tasse, vous êtes tous d'accord avec moi que c'est une tasse, et c'est une vérité, c'est une tasse. Donc, on n'a pas la vérité sur tout, mais on a beaucoup de vérités sur plein de choses quand même. Et je trouve que c'est un peu dommage de dire que c'est... Impossible d'avoir la vérité alors qu'on l'a déjà sur plein de choses.
Moi, ce qui me dérange dans ce que vous dites, c'est que vous présentez la vérité ou la réalité comme unique. Je ne saisis pas. Si on prend le réchauffement climatique, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que c'est une réalité ou pas? On a tendance à tous croire qu'on est. Et ça, c'est déjà une question. Et là, je pense qu'on peut en approcher la réponse. L'approche théorique de la vérité avec un grand V me dérange. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que la vérité avec un grand V, il n'y en a qu'une, c'est qu'on a chacun notre propre vérité. Donc, c'est la seule que je peux entendre.
On n'a pas dit en début de séance, mais on essaye toujours de privilégier les paroles, les prises de parole des personnes qui ne se sont pas encore exprimées.
Alors, il n'y a peut-être pas une seule vérité, chacun sa vérité, mais la question que je me pose, bon, sans vouloir trop politiser les choses, par rapport aux fake news et à tout ce que nous raconte par exemple Trump, on peut dire qu'à des moments, c'est complètement faux ce qu'il raconte et qu'il y a des vérités auxquels on peut croire, qu'il y a des choses scientifiques qui ne confirmeront pas ce qu'il dit. Comment, avec tout ce qui a été dit, hein, lutter contre les fake news? Comment, si on n'a pas une perception d'une certaine vérité en nous, si on ne va pas s'appuyer sur des faits scientifiques, comment on va lutter contre ça? Puisque quand on va interroger les gens qui votent pour Trump, ils ont leur vérité et inébranlable, quels que soient les faits. Alors qu'il y a des faits quand même, il y a quand même une vérité. Donc dire qu'il n'y a pas de vérité, ça me gêne un peu. En tout cas, je me dis, comment pouvons-nous faire par rapport aux fake news? Voilà. Je n'ai pas de réponse, mais je me dis qu'il y a quand même des vérités par rapport à des choses incroyables qu'on entend. Je voudrais répondre à madame qui disait que, en fait, les croyants en fait, ne peuvent assimiler le doute. C'est-à-dire ne doutent pas. Alors, moi, je suis croyante, et en fait le doute fait partie de ma vie parce que justement j'aime m'interroger, j'aime réfléchir, j'aime me poser des questions, et je trouve que justement le doute, le questionnement, l'évolution dans la réflexion, c'est au quotidien, et que le croyant, enfin moi je le vois comme ça parce que je le suis, c'est un cheminement et un questionnement, on est actif, on n'est pas passif. Et je pense que c'est le vrai cheminement du croyant. Ça, c'est ma pensée, bien sûr.
J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit à l'instant. Alors, effectivement, concernant la vérité, il y a effectivement plusieurs petites vérités factuelles qui sont absolument incontestables. Telles que, effectivement, le réchauffement climatique, là, aucun doute là-dessus, il est purement factuel. On ne peut douter de sa tangibilité. Néanmoins, c'est là, précisément là, qu'intervient le pire ennemi de la vérité, à savoir le déni. Le déni, là encore, est une arme extrêmement puissante. Un déni qui peut, lui aussi, être politisé, instrumentalisé, et récupérer pour faire, là encore, un petit peu tout et n'importe quoi. Et la vérité, là encore, une nuance importante en ce qui concerne la vérité, c'est que la vérité n'est considérée comme la vérité, n'est vérité que si elle est considérée comme telle. C'est-à-dire que, tant bien même un fait, par exemple, historique, tel que l'Holocauste, est absolument indéniable, on ne peut pas ne pas y croire, il n'empêche que je peux toujours décider de mon plein gré de ne pas y croire. Ce qui fait que, de mon point de vue, la réalité sera totalement réécrite, elle sera totalement déformée. Et c'est là aussi que nous devons rester le plus prudents. De remettre en question nos certitudes, remettre en question nos croyances pour ne pas tomber dans des vérités aveugles. Oui.
Oui, alors peut-être là encore, je crois que il y a beaucoup de choses qui sont inscrites dans cet usage qu'on fait du terme de vérité. Ouais. Quand je vous écoute, ce qui me paraît assez évident, c'est qu'il y a deux, deux définitions qui en fait s'entrechoquent de la vérité et nous mettent des fois dans l'embarras au niveau de notre réflexion. La première, c'est celle de la science. La science, que dit-elle ? Elle dit sous forme effectivement modélisée, notamment sous la forme de la modélisation mathématique, elle a simplement pour vocation de dire ce qui est. Voilà. Comment fonctionne, je vais rester très, très proche de la science physique, hein, de la matière, comment la matière fonctionne ? Voilà. Je lâche un stylo, il tombe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi de la gravitation. Point barre. Voilà. C'est tout. Et en fait, la vérité qu'on cherche, je reprendrai l'exemple des camps. Les camps, ils sont. Enfin, à Auschwitz, on y va, le camp, il est là. Il est. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit ? Vous avez utilisé le mot. Il y a une réécriture. Ce qui veut dire que pour qu'il y ait une réécriture, il a fallu qu'il y ait une écriture. Et l'écriture, elle, qu'est-ce qu'elle vise ? Elle ne vise pas à le faire. C'est là où tout d'un coup, on dévie un peu dans la réflexion. Qu'est-ce qu'elle vise ? Elle vise le sens. Et je reviendrai sur la question fondamentale qui a été posée. C'est-à-dire, on n'est pas que dans vérité-réalité. On est dans vérité-réalité, volonté ou désir de rechercher la vérité. Pour quelle raison est-ce qu'on recherche la vérité ? Pour quelle raison on a ce désir de connaître le vrai ? Mais tout simplement parce qu'on cherche du sens à notre existence. Et là, le sens de notre existence, tout d'un coup, s'ouvre le problème de la subjectivité. C'est-à-dire, effectivement, on va accorder des sens différents à nos existences. Et donc, le sens que je vais tenter de donner à mon existence, je vais le nommer vérité. Et je vais dire, c'est ma vérité. C'est ma manière de percevoir le réel. Mais de quel réel on parle là ? On parle d'un réel existentiel, et non plus d'un réel factuel auquel s'attache la science. Donc, forcément. Salut.
Alors, ça va peut-être nous ramener un peu en arrière dans le raisonnement, mais je me rends compte à force de... ça gamberge beaucoup en écoutant ce qui se dit. Et en fait, l'une des limites ou des problèmes de perception dont on parle, il y en a un que je n'avais pas pensé, mais qui est tout bêtement celui en fait, qui a l'air de sous-tendre une bonne partie des discussions, c'est une limite peut-être linguistique. Dans le sens où on parle de vérité, on parle de réalité, et en fait, à force de réfléchir, je me dis, mais qu'est-ce qui peut être vrai et qu'est-ce qui peut être réel ? Avant de se dire qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qui peut l'être ? Est-ce que quelque chose peut être vrai et réel ? Est-ce que quelque chose peut être réel mais pas vrai ? Ou l'inverse ? Est-ce que les concepts de réalité et de vérité s'appliquent aux mêmes choses ? Parce que le coup de la tasse qui est face à nous et qui est une tasse, et c'est... mais en fait, il y a peut-être quelqu'un qui ne va pas percevoir comme une tasse. Il y a des gens qui vont avoir, qui peuvent souffrir d'hallucinations, qui peuvent avoir des crises, donc ils vont voir ça. Non, c'est pas une tasse, c'est une souris. Même si pour la plupart des gens, non, c'est une tasse. Et donc en fait, la question que je me pose, c'est à quoi s'appliquent les concepts de vérité et de réalité ? Qu'est-ce qui peut être vrai ou pas vrai ? Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de savoir si dans d'autres cultures ou dans d'autres langues, les concepts de vérité et de réalité d'ailleurs se confondent ou sont distincts. J'ai pas de réponse, hein, je connais pas.
On va peut-être en avoir une, madame.
Moi justement, c'est mon culture qui m'a parlé. C'est justement, bon là on est en France, on a les Aubrais. Je trouve qu'on a toujours, en fait, c'est un discours, on va dire, ethnocentré. Les Européens ont raison, Trump est fou, c'est un malade mental, l'Iran n'a pas le droit d'avoir des armes, mais nous aussi, la Russie non, n'a pas le droit de se défendre, mais nous aussi, voilà. En fait, c'est ça, c'est que déjà il y a la culture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une étude anthropologique ou dans un peuple en Afrique, ils n'ont jamais connu la couleur bleue, on leur dit... Enfin, ils ne savaient pas ce que c'était le bleu, et c'est après qu'on leur a dit qu'ils ont formalisé quelque chose qu'on ne connaît pas, pour eux, c'est irréel, ça n'existe pas. Donc voilà, je crois que le... Je n'ai pas de réponse, hein, c'est ce que je pense. Hein. C'est qu'en fait, la réalité est... enfin, la vérité, parce que réalité, voilà, je vois pas trop... Enfin, pour moi, c'est trop vaste. C'est selon les cultures, les endroits, en fait, c'est inscrit dans un espace-temps.
Alors, c'est intéressant parce que vous introduisez la notion de langage. Je reprendrai un autre exemple qui est la couleur blanche. Voilà. Nous avons du blanc cassé, du blanc crème, enfin, puis, bon, ça, coquille d'œuf, ça tourne un peu, mais ça s'arrête à peu près là. Si on étudie la langue des Esquimaux, ils ont, à ce qui paraît, plus de 50 termes pour désigner la couleur blanche. Ouais. Donc, et effectivement, il est évident qu'ils voient en désignant ce que nous ne pouvons pas le désigner, donc ne pouvons pas le nommer, nous sommes incapables de voir. C'est pourquoi ils ont un savoir de la banquise que nous, on n'aura jamais. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas Esquimaux. Voilà. Donc, s'il n'y a pas le mot bleu, pour reprendre votre exemple, le bleu n'existe pas. Alors, ça interroge sur le réel. Hein. Il y avait un auteur autrichien, puis anglais, qui se nomme Wittgenstein, qui définit très justement la chose. Il dit, enfin, qui va nous interroger ici. Il nous dit, mais en fait, la limite de mon langage détermine la limite de mon monde. Voilà. Plus mon langage, en fait, est riche, subtil, plus mon réel, le réel, c'est une question pour l'interrogation, mais en tout cas, plus mon réel est riche et subtil, moins je maîtrise le langage, moins mon monde est ouvert. Donc, est-ce que le réel est, ou est-ce que nous créons le réel par notre langage, et le langage n'est que notre culture. Donc, est-ce que notre culture fait être le réel, ce qui fait que le réel ne serait pas si on ne parlait pas, mais en tout cas, il ne nous apparaîtrait pas tel qu'il nous apparaît. Vraie question. Est-ce qu'on crée le réel ou est-ce qu'on découvre le réel? Pour en revenir juste à votre remarque, moi je resterai grec, je suis culture grecque. La vérité en grec c'est aletheia. Et l'aletheia, qu'est-ce que c'est? C'est un dévoilement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans cette idée d'adéquation. C'est-à-dire la vérité c'est le dévoilement de ce qui est. Voilà. Donc on ne crée pas. La vérité, on ne la crée pas. La vérité, on peut juste à un moment donné y avoir accès parce qu'elle nous donne accès à autre chose qu'elle-même. La vérité, elle ne se tient pas en soi. La vérité, c'est le mode d'accès à ce qui est, à l'être. Quand je dis vrai, je dévoile l'être. Voilà. Mais l'être est. Alors que chez Wittgenstein, je suis moins certaine. Hein. C'est-à-dire, c'est parce que je dis que je fais advenir le réel. C'est parce que je dis bleu qu'il y a du bleu. Si je le dis pas, il n'y a pas. Ou en tout cas, il n'y a pas pour nous.
Je voulais introduire une notion très terre à terre, mais c'est que le réel, on l'appréhende en premier lieu par nos sens. Et que nous ne sommes pas du tout égaux dans ce domaine-là. Par exemple, en Europe, on sait qu'il n'y a que 20% de la population qui est capable de voir les nuances de couleurs. Pour beaucoup de gens, pour 80% des gens, on leur met deux nuances de rouge, c'est la même teinte, ils ne voient pas la différence. Dans le domaine des odeurs, c'est pareil. On a chacun des seuils de perception olfactive, mais qui sont différents d'une note olfactive à une autre. Donc, chacun peut décrire ce qu'il voit, mais ses sens ne donnent pas la même perception du réel. Ça complique encore un peu les choses.
On en revient aussi, donc, sans connaissance, il n'y a pas de vérité, mais la culture, je rebondirais sur la culture. Par exemple, en fait, pour appréhender une réalité culturelle, je vais donner un autre exemple, au Mexique, en fait, c'est comprendre, parce qu'on parfois on oppose réalité à fiction, à l'imaginaire, et en fait, justement, dans la culture, justement, si on connaît la culture mexicaine, on va comprendre que l'imaginaire mexicain, qui est d'ailleurs sur le drapeau mexicain avec une légende, aide à appréhender la réalité du monde mexicain, notamment à des périodes de l'année comme celle qui vient de se passer, hein, du lien entre la mort et la vie, par exemple au Mexique, ou certaines croyances. Et justement, cette culture mexicaine aide à appréhender justement cette réalité, puisqu'elle est basée, une grande partie basée sur des légendes et sur un monde imaginaire et de croyances. Donc c'est vrai que la culture est fondamentale pour mieux comprendre et appréhender tout ça.
Alors, peut-être revenir sur ce rapport entre réel et imaginaire, notamment au niveau des contes. Parce que aux enfants, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas le réel, on le dit d'une certaine manière, mais on le dit par l'intermédiaire des contes. Et il me semble que dans les contes, il y a cet entremêlement entre l'image, le petit chaperon rouge, qui doit se méfier du méchant loup, et tout est dit alors même que rien n'est dit. Mais il y a quelque chose qui se... Et il y a quelque chose qui se constitue du coup dans la psyché de l'enfant et qui lui permet d'appréhender effectivement le monde dans lequel il vit, qui lui donne en fait des règles et des directives. C'est ce qui va donner le fondement culturel qui peut être le nôtre. La question est, à partir de ce moment-là, est-ce que toute réalité en fait n'est pas nécessairement qu'humaine? Alors, je m'explique un peu. Si on reprend la définition initiale entre vérité et réalité, est vrai ce que je pense d'une chose et ce que la chose est. Je dis l'arbre est vert, et puis l'arbre est effectivement vert. Et c'est parce que ce que je dis correspond à ce qui est que ce que je dis est vrai. À partir de là, la question quand même qui se pose, c'est comment savoir si ce que je me représente, ce que je me représente quand je dis l'arbre est vert, c'est bien que je le vois, c'est bien que j'en ai une image mentale. On revient un peu sur le daltonisme. Comment savoir si l'image mentale que j'ai correspond effectivement à l'arbre tel qu'il est? Parce que on ne peut pas sortir de la manière pense. En fait, tout est cérébral si on veut parler assez simplement. Donc, comment savoir si ce que je pense ou ce que je me représente de ce que je reçois de l'extériorité par l'intermédiaire de mes sens, je resterai simplement sur le visuel, correspond effectivement à ce qui existe hors de moi tel qu'il est? Pour le savoir, il faudrait un élément tiers. Et on revient sur les questions d'interprétation, l'enfant au pyjama rayé. Pourquoi l'enfant ne sait pas que l'enfant au pyjama rayé est dans un camp de concentration? Mais parce qu'il ne le voit pas, le camp de concentration. Donc, la majorité du temps, notre vision, en fait, on n'a pas ce spectateur extérieur qui nous permettrait d'avoir une vue d'ensemble pour être assuré que ce que l'on dit, ce que l'on voit ou ce que l'on vit correspond effectivement à ce qui est. Donc, d'une certaine manière, le réel, on n'en a qu'une approche, j'ai envie de dire, subjective. Voilà. Donc, on ne peut jamais le définir tel que ce réel. Donc, il passe toujours par l'intermédiaire ou le filtre de l'imagination. Vous voyez la chose? C'est d'une grande difficulté de dire que ce que je pense correspond effectivement à ce qui est.
J'ai une autre question qui arrive à l'esprit justement sur l'imaginaire. Alors, doit-on dans le désir d'une réalité, changer l'imaginaire. Je m'explique, on parlait des contes. Par exemple, en Espagne, il y a des contes qui ont été interdits. Ou comme aujourd'hui, bon, ça évolue un petit peu, parce que je pense que la réalité, on disait les réalités, mais aussi quelqu'un a parlé de l'espace et du temps, la réalité du petit chaperon rouge ou des contes à une époque donnée, que ce soit Perrault ou Grimm, n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et je vous donne l'exemple, dans la ville de Barcelone, il y a eu des contes qui ont été censurés, enlevés d'école, voire on a changé la première de couverture de contes. Mon ami, alors je vous donne un autre, c'était La Belle au bois dormant, qui était sur cheval à la place du prince charmant, puisqu'on est dans une réalité aujourd'hui, l'homme et la femme sont égaux, la petite fille, elle ne doit pas se faire manger par le loup, donc c'est plus possible. Donc elle surmonte cela, donc c'est quelque chose qui est un peu régressif. Donc on est dans un monde où il y a cette égalité, où la petite fille est moderne et pas soumise, ne doit pas être celle qui attend son prince. C'est celle qui peut justement, si c'est le petit chaperon rouge, dépasser le loup. Et on l'a retrouvé aussi dans des publicités. Que ce soit pour des parfums ou Chanel ou autre, où on voit que la femme est dominatrice et que c'est le loup qui hurle et qui se met à ses pieds parce qu'il est séduit par la femme au petit chaperon rouge. Donc en fait, on est en train de détourner les choses. Donc doit-on changer l'imaginaire du fait d'une réalité, de l'évolution de la société?
On pourrait presque dire pour changer le réel. Justement, puisqu'on parle d'imaginaire, ça m'a fait penser à un petit spot de publicité que j'ai vu il y a peu pour Canal+. Vous connaissez tous, le film qui s'appelle La Marche de l'Empereur, où la personne décrit à une autre personne qu'elle a vu ce film, elle lui dit La Marche de l'Empereur, et on voit dans l'imaginaire de l'interlocuteur que sur la banquise, on voit plein de petits Napoléons qui se mettent à descendre la banquise sur le ventre, qui sont poursuivis par un phoque. Le film existe bien, il est réel. Et pour la personne qui s'imagine le film, sa réalité à elle, c'était ça, c'était des petits Napoléons sur la banquise. Donc l'humain est doté de cette capacité d'imagination très fertile. Et on voit bien à quel moment il peut y avoir une distorsion entre la réalité telle qu'elle est, le film il existe bien, et on voit des pingouins, hein, enfin des manchots plutôt, et est-ce que s'imagine la personne de ce qu'est ce film. Donc c'est pour montrer à quel point notre imaginaire peut nous envoyer quelque part loin d'une réalité, mais qui pour autant est une vérité pour la personne qui s'imagine.
Peut nous induire en erreur. Tout à fait,
ouais. Vous avez parlé d'imaginaire qui fait que dans l'esprit de l'interlocuteur, la banquise est toute pleine de petits Napoléons qui glissent sur le ventre pour échapper au fond. Je ne sais pas si c'est l'imaginaire, en l'occurrence, on a parlé. Là, vous disiez que c'est le langage qui fait advenir le réel. Et moi, je pense qu'il y a un rapport étroit entre les deux, le langage et autre chose, c'est l'ancrage culturel. Parce que si l'interlocuteur, la personne à qui on raconte le film n'a jamais entendu parler de Napoléon, il ne va pas voir de Napoléon sur la banquise. Et je pense que si on a une vision qu'on croit personnel ou peut-être collectif d'un réel, c'est à cause de la grâce, à cause par le biais de la culture dont on est imprégné. Rebelote, pour les contes de fées qu'on réinterprète, là maintenant il paraîtrait qu'il vaudrait mieux que la femme ne soit pas soumise au loup, hein, qu'elle le domine. On peut aussi dire que le loup peut aussi être dépourvu de son côté démoniaque et prédateur, hein, et que c'est l'ancrage culturel qui fait que le loup est un grand méchant et la petite une adorable gamine. Donc, je pense que notre perception de la réalité est surtout générée par l'imprégnation culturelle qu'on subit tous. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que si on veut voir, pas toute la réalité, mais une espèce de complexité dans le monde, l'urgence absolue, c'est de s'extraire de sa propre culture. Non pas toujours la trahir, quoique je pense, c'est bien de trahir sa culture, mais d'aller voir ailleurs ce qu'on croit, ce qu'on ressent, ce qu'on imagine. J'en vais donner une seconde sur les couleurs. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Michel Pastoureau, qui était le premier, je crois, à écrire beaucoup sur les couleurs. Alors, je n'ai pas lu tout ce qu'il a écrit, mais j'ai lu plein de trucs sur les couleurs. Et quand vous parlez de la perception des couleurs, il dit que dans certains pays, en Chine, je ne sais plus lequel, on ne distingue pas une couleur à l'autre, mais le mat et le brillant. Donc, c'est une vision totalement différente des couleurs. Donc, je pense que ce qui nous construit, contrairement à ce qu'on aimerait croire, c'est pas tellement notre individualité que le milieu qui nous imprègne et dont je pense qu'il faudrait s'extirper un maximum.
On pourrait presque aller jusqu'à dire là que tout est culturel.
Tout est culturel.
Ouais.
Sans culture, on ne pourrait pas être là ce soir.
Oui, sans culture, on ne pourrait pas être là ce soir. Oui, oui, oui. Voilà, oui. Alors, je ne sais pas, je conclue. Oui. Alors, j'aimerais partir de ça. Nous sommes le produit donc, de notre culture jusqu'à notre manière de percevoir hein, ce qu'on pourrait croire être le plus naturel, par exemple la vue. Et en fait, déterminé par l'éducation qu'on a reçue, exemple type qui peut aller très loin, on ne perçoit pas les couleurs, mais on perçoit le mat et le brillant. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous a appris. C'est ce qui est aussi véhiculé au travers du langage, qui fait de nous un être de culture, et qui nous donne accès à un certain réel, du coup, ce qu'on peut nommer l'ethnocentrisme. On voit le monde ou le réel tel que notre culture nous a appris à le voir, à le voir, à le penser, à le sentir, et la vérité serait effectivement ce que nous sommes capables d'en dire, et peut-être même d'en dire collectivement, de par la communauté à laquelle j'appartiens. Ce qui serait peut-être aussi vrai scientifiquement, parce qu'après tout, les mathématiques, qu'est-ce que c'est ? C'est un langage. Il y a un langage mathématique, une modélisation en fait d'un réel que l'on se donne mathématiquement, et qui fait que, et on l'a dit une fois, je relève le terme, la science n'est pas nécessairement vraie. Mettons un peu ce mot de côté parce qu'encore une fois, il est tellement riche de contresens que tentons de l'évacuer, mais en tout cas, la science fonctionne. Et c'est parce que ça marche qu'on peut dire qu'il y a peut-être là quelque chose d'une vérité approximative. On ne peut pas dire qu'on possède la vérité, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on tend, tout en sachant que ce n'est pas possible, parce que pour que la vérité soit, il faudrait une connaissance intégrale de ce qui est, et que nous avons un petit cerveau qui reste quand même limité, et donc, par définition, on sait toujours qu'il y aura des choses qui nous échapperont. Ce qui permet, je crois, une fois qu'on a pris en compte tout ça, ce qui permet à Nietzsche de répondre à la question en disant « mais il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations. Voilà. Pas de vérité, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait, c'est-à-dire la table est dure. Non, il n'y en a pas. Il n'y a que des interprétations. La table, elle est dure pour un humain, mais j'ai envie de dire... pour une fourmi, on n'en sait strictement rien, en fait. Le monde qui est le nôtre et qu'on pose comme vrai, c'est un monde qui est perçu selon une perspective humaine, et essentiellement humaine. Les autres espèces ont aussi leur propre rapport à la réalité. Alors, est-ce que ça veut dire que la vérité, il faut totalement l'évacuer ? Est-ce qu'il n'y a pas de réel ? Est-ce que le réel n'est que ce que nous en faisons? Et là, on a quand même un vrai problème, parce que du coup, comment on va départager, pour en revenir au point de départ, les fake news des news, l'information de la désinformation? Quand même une vraie question. Alors, il est vrai que la question, elle nous intéresse, on cherche à marquer cette démarcation, encore une fois, parce que notre existence en dépend. Selon ce que je vais croire ou pas, selon ce que je vais considérer comme vrai ou non, ça va déterminer la manière par laquelle je vais me comporter, la manière par laquelle je vais penser, la manière par laquelle je vais me rapporter aux autres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nécessairement nous contraint ? Voilà. Et là, je m'en référerai à un auteur que tu as cité la dernière fois dans ta conclusion aussi, Nicolas, que je reprends, c'est Lacan. C'est-à-dire le réel, qu'est-ce que c'est, dit Lacan. Le réel, dit Lacan, alors tu as dit, c'est ce qui frappe, je vais le reprendre, mais c'est l'impossible. Et c'est là, je crois, où il nous interpelle vraiment. Le réel, c'est l'impossible. C'est l'impossible à dire. C'est l'impossible à formaliser. Alors, est-ce pour autant que c'est le néant? Non, c'est ce qui frappe le réel. C'est ce qu'on se prend en pleine figure. Et je crois que la chose, elle est importante, c'est-à-dire le réel, qu'est-ce que c'est? C'est pas la réalité. Parce qu'effectivement, la réalité, on lui donne une forme par le langage que nous utilisons, nous la formalisons, la réalité, nous la faisons d'une certaine manière à notre image, image humaine, véhiculée par le langage, quels que soient les types de langage. Mais le réel, lui, qu'est-ce que c'est? Le réel, c'est ce qui vient nous percuter, c'est ce qui vient nous fracasser, vraiment. Le réel, c'est ce qui me laisse sans voix, voilà, mais qui, encore une fois, m'assomme totalement. Exemple type, vous allez chercher un diagnostic médical et on vous annonce que vous avez un cancer niveau 4, et ben, c'est ce qu'on appelle la cathédrale qui vous tombe sur la tête, c'est ça le réel. Le réel, c'est ce qui vous assomme, c'est ce qui vous fracasse, c'est le mur qu'on se prend. Comme disait Descartes, on peut douter de tout, alors réponse, on lui disait, bah oui, bah, je doute qu'il y a un mur et j'y vais et je me le prends. Ouais, je me le prends le mur. Et Descartes dit, effectivement, là, il y a quelque chose. Le réel, c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste à la modélisation. C'est ce qui résistera toujours à la vérité que j'essaye d'enserrer. C'est ce qui déborde le réel. C'est ce qui fait qu'on n'en arrêtera jamais de rechercher cette vérité. C'est ce qui fait qu'on essaiera toujours de la nier. Voilà, qu'on mettra en place du déni. Pourquoi? Parce qu'on aimerait tellement la contrôler, cette vérité. Oui, le mensonge, c'est la même chose. Ça me permet de la contrôler. Mais le réel, on ne contrôle pas. Voilà. Je vous... J'espère vivre dans un monde de réalité et de rencontrer le moins possible le réel, la vérité du réel qui est effrayante. Et on avait commencé, je crois, avec l'angoisse sur un sujet. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se lie là. C'est-à-dire la vérité du réel, c'est l'angoisse que l'humain ressent. Et là, on ne la contrôle pas, on ne la modélise pas, on ne la formalise pas. On la vit, hélas.
Le réel, est-ce que c'est pas ce qui fait trop mal, finalement?
Si, c'est ça.
C'est ça, d'accord.
Ah, oui.
C'est vraiment une distraction psychique.
Total.
Qui nous laisse sans voix.
Sans voix, à plat. Voilà. Oui. Face au réel. Et ça, la manière dont on sait qu'on ressent le réel, c'est le déclenchement de l'angoisse. L'angoisse, c'est la confrontation au réel.
Il y a une citation de l'auteur Philippe K. Dick, l'homme qui a écrit Les androïdes rêvent-ils de moutons électroniques, roman qui a directement inspiré le film Blade Runner. Et finalement, K. Dick décrit la réalité de cette façon. La réalité, c'est ce qui continue d'exister alors qu'on arrête d'y croire. Ce n'est pas parce que vous arrêtez de croire au mur qu'il cessera d'exister. Et finalement, je trouve que cette citation résume bien l'idée générale.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.